Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'aboutissement de 10 ans de combat. Irène Frachon, la pneumologue de Brest, qui la première a lancé l'alerte sur les effets secondaires du Mediator, doit témoigner aujourd'hui devant la justice au procès des laboratoires Servier et de l'agence du médicament. On voit ça après les autres titres.
Donald Trump envoie son vice-président en Turquie. Vladimir Poutine convoque Recep Tayyip Erdogan à Moscou. La pression diplomatique s'accentue sur Ankara, qui poursuit son offensive en Syrie. La chef de l'exécutif à Hong Kong obligée de quitter l'enceinte du Parlement sous la protection de la police. Les municipales en France et le casse-tête continuent pour La République en marche. Et puis la sortie aujourd'hui du 8e film de Xavier Dolan, Mathieu et Maxime. Après une incursion aux États-Unis, le jeune réalisateur retrouve son Québec.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Pionnier de l'agroécologie en France, prophète pour certains, gourou pour d'autres, il prône la sobriété heureuse et appelle à une insurrection des consciences. Il sort un livre de dialogue sans concession avec le journaliste Denis Laffey sur l'homme et son rapport délirant à la nature. Pierre Rabhi est notre invité.
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale aujourd'hui avec le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
France Inter. Son engagement, sa personnalité, sa ténacité ont inspiré un film et une pièce de théâtre. Pendant 10 ans, Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, a donc incarné le combat contre le Mediator, se définissant elle-même comme lanceuse et porteuse d'alerte. Le Mediator, c'est ce médicament présenté comme un antidiabétique, mais largement prescrit comme coupe-faim, et soupçonné d'avoir causé entre 1500 et 2000 décès en France. C'est elle qui a révélé le scandale en 2009. Et aujourd'hui, Irène Frachon va témoigner devant le tribunal correctionnel de Paris où sont jugés depuis plus de 3 semaines les laboratoires Servier et l'agence du médicament. Charlotte Piret.
Elle est la superstar de ce procès. Cette pneumologue au CHU de Brest, 56 ans, mère de 4 enfants, éternelle chignon et allure décontractée, est pourtant plus attirée par les côtes bretonnes ou la musique que les caméras. Mais c'était sans compter sur l'affaire Mediator et son rôle de lanceuse d'alerte qui a fait d'elle une héroïne moderne, au propre comme au figuré d'ailleurs, puisqu'une pièce de théâtre lui a été consacrée, puis un film.
On a 2 minutes du lâcher de bombe.
La fille de Brest.
Toutes les preuves, elles sont là-dedans.
Pour arroser les grands médias.
Je suis médecin, moi. À Pam Pam Girl.
Alors, Irène Frachon, interviewée cet été par France Inter, a fait de sa médiatisation un tremplin.
Il y a d'un côté un industriel et des dizaines de cabinets d'avocats, de ténors du barreau présents et extrêmement agressifs. Et de l'autre côté, il y a des parties civiles qui sont écœurées, qui n'ont pas d'argent pour payer leurs avocats. Donc on est toujours dans une logique du pot de terre contre le pot de fer. Et moi, depuis maintenant plus de 10 ans, je suis la machine à détecter les mensonges. Et je serai là pour ça.
Michel, victime du Mediator, se souvient encore de leur première rencontre.
C'est la première fois que je voyais Madame Frachon. Ouais, ça m'a ému. Elle m'a blotti dans ses bras. Elle m'a dit, Michel, on se bat jusqu'au bout.
Ici, les parties civiles ont délaissé les bancs de la salle d'audience ces dernières semaines. Elles sont à nouveau attendues en nombre. Cet après-midi.
Moment intense donc dans ce procès qui doit s'achever fin avril 2020.
Activité 7h04, activité diplomatique pour tenter de stopper l'offensive turque en Syrie.
Il y a d'abord ce coup de fil hier soir entre Moscou et Ankara. Vladimir Poutine a pour la première fois mis en garde Recep Tayyip Erdogan sur un possible affrontement avec les forces de Bachar el-Assad et jugé inacceptable la fuite de combattants djihadistes profitant du chaos ambiant. Le président turc qui officiellement entend poursuivre ses objectifs, mais il a accepté de se rendre à Moscou dans les prochains jours. Pression également du côté des États-Unis avec l'envoi en Turquie du vice-président américain, Gregory Phillips.
Mike Pence, dont c'est la première visite officielle en Turquie, est accompagné du patron de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, et d'un responsable du département d'État qui connaît bien le pays. L'an passé, ce diplomate avait réussi à obtenir la libération d'un pasteur américain détenu pendant 2 ans dans une prison turque. Le vice-président des États-Unis va donc demander au président Erdogan qu'il signe un cessez-le-feu immédiat. Il rappellera aussi aux dirigeants turcs que la Maison-Blanche est prête à adopter des sanctions économiques sans précédent contre son pays s'il poursuit cette opération militaire. Pour Washington, obtenir un arrêt rapide des hostilités est une priorité car le millier de soldats américains déployés en Syrie a certes commencé à se retirer, mais il leur faudra des semaines pour quitter le pays et le Pentagone redoute des incidents. Enfin, pour démentir le fait que les Kurdes ont été abandonnés par les Américains, un responsable de ce même Pentagone expliquait hier soir de manière anonyme que son pays continuerait à coopérer avec les forces démocratiques de Syrie sous une forme qui reste à déterminer.
La situation en Syrie qui sera au cœur du Conseil des ministres franco-allemand qui se tient aujourd'hui à Toulouse en présence d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. Au menu également les avancées des négociations sur le Brexit et la politique de défense européenne. Une journée qui doit débuter par la visite des chaînes de montage des Airbus A350. Et puis à Lyon ce soir, premier meeting de campagne de David Klimenfeld qui a donc décidé de se présenter face à Gérard Collomb, candidat officiel de La République En Marche. Nouvelle illustration de la difficile organisation des municipales pour la majorité. Les bons candidats ne sont pas si faciles à trouver et les relations avec les différents alliés se sont fortement tendues, Karine Bécard.
Rien ne se passe comme prévu pour ces élections municipales. D'abord, La République En Marche a bien peu de chances désormais de réussir à investir le nombre de têtes de liste qu'elle s'était fixée. Elle espérait en présenter dans chaque commune de plus de 9000 habitants, c'est-à-dire près d'un millier de candidats. Or, à 5 mois des élections municipales, seules 256 investitures ont pour l'instant été données et encore, elles sont 160 seulement à porter les vraies couleurs de la majorité. Les 96 autres ne sont que des soutiens offerts à un maire sortant. Donc les investitures patinent assez sérieusement. Ajoutez à cela le manque de discipline, avec plusieurs cas emblématiques de dissidence comme à Paris et à Lyon, mais pas uniquement, dans des villes plus petites aussi, moins attendues, comme Sens par exemple, ou Lons-le-Saunier. Et puis, en imposant ses propres candidats dans des villes modem comme à Vannes, Agir comme à Quimper ou Radical comme à Montélimar, La République En Marche a déjà réussi à se fâcher avec ses principaux alliés.
Les magasins Conforama devraient rester fermés aujourd'hui. Les syndicats CGT, FO, CFE, CGC appellent à la grève pour dénoncer les conditions qu'ils qualifient d'honteuses du plan de sauvegarde de l'emploi présenté hier par la direction. Un forfait de 1 000 à 2 500 euros par salarié en fonction de l'ancienneté. Au ras des pâquerettes, estime la CGT. La direction affirme qu'il s'agit d'une base de départ pour négocier. Conforama a annoncé en juillet dernier un plan de restructuration qui prévoit 1 900 suppressions de postes et la fermeture de 32 magasins Confo et 10 magasins Maison Dépôt. Eux s'inquiètent pour l'avenir des vignobles français. À 48 heures de l'entrée en vigueur des taxes américaines à hauteur de 25%, résultat d'une guerre commerciale acharnée centrée sur Airbus et les subventions européennes reçues par l'avionneur. Alors nos vins ont-ils les épaules pour supporter une telle crise? La réponse de Jean-Pierre Rousseau. Il est le directeur général d'une société de négoce en vin de Bordeaux qui exporte 20% de sa production vers les États-Unis.
En théorie, oui, mais en pratique, évidemment, on laissera la place à d'autres vins pas taxés du tout, comme les vins latino-américains, comme les vins italiens, qui sont déjà, je le rappelle, numéro un aux États-Unis, suivis de près d'ailleurs par les Argentins et les Chiliens. Donc effectivement, on va laisser une place béante et puis on aura du mal à s'en remettre. À l'heure actuelle, personnellement, en tant que négociant, on va dire nos marges sont grosso modo l'ordre de 15%. Donc on peut absolument pas assumer une baisse de prix, quelle qu'elle soit, même pas de 3 ou 4%. Les propriétaires ne m'ont pas l'air de vouloir spécialement baisser les prix. Et certains d'ailleurs ne le peuvent pas, puisque on connaît une myriade d'exploitations bordelaises en difficulté, mais c'est la même chose dans le reste de la France. Donc, hélas, la hausse va s'appliquer et elle sera de 25%.
Jean-Pierre Rousseau, directeur général de Diva Bordeaux, joint par Florence Péruzin de France Bleu Gironde.
Il est 7h09, ambiance très tendue, Agnès, ce matin au Parlement de Hong Kong.
Carrie Lam, la chef de l'exécutif, devait prononcer le traditionnel discours annuel de politique générale, mais elle a dû renoncer, prise à partie par l'opposition qui continue de réclamer sa démission. Elle a même dû quitter les lieux par une porte dérobée sous protection policière. Débat suivi pour France Inter par Dominique André, correspondante à Pékin.
Huée par plusieurs parlementaires du camp pro-démocratie, Carrie Lam a tenté à deux reprises ce matin de prononcer son discours, mais incapable de prendre la parole dans cette cacophonie, elle a dû se replier. Des manifestants habillés en noir ont même réussi à entrer dans l'hémicycle. Cette situation est sans précédent dans l'histoire parlementaire du Hong Kong, commentent déjà les experts locaux. 5 demandes, pas une de moins, ont crié les pro-démocrates dans l'enceinte du Parlement. Parmi elles, le suffrage universel, l'amnistie pour les manifestants arrêtés, une commission pour faire la lumière sur les violences policières et la démission de Carrie Lam. Ce matin, la chef de l'exécutif local de Hong Kong est contrainte de prendre la parole par vidéoconférence. C'est un camouflet sévère pour Madame Lam, qui espère toujours que son plan social, qui concerne surtout le logement, va calmer la crise hongkongaise, la pire que traverse l'ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine il y a 22 ans. Hong Kong, Dominique André, France Inter.
Tension également en Catalogne avec une guérilla urbaine hier soir dans les rues de Barcelone, conteneurs en feu, charges policières. Les manifestations contre la condamnation des dirigeants indépendantistes ont de nouveau dégénéré. Des heurts également à Gérone, Tarragone ou Lérida. Un chercheur français est en prison en Iran depuis cet été. L'information avait été gardée secrète jusqu'ici par les autorités françaises. Elle est révélée ce matin. Roland Marchal, spécialiste de l'Afrique à Sciences Po, a été arrêté au même moment que sa collègue, la franco-iranienne Fariba Adelka. Les gardiens de la Révolution la soupçonnent d'espionnage. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. En bref, encore, c'est bien la justice française qui sera chargée de trancher le litige sur l'héritage de Johnny Hallyday. Sa veuve, Laetitia Hallyday, a finalement renoncé à contester la compétence des tribunaux hexagonaux. Depuis la mort du chanteur, les aînés Hallyday sont engagés dans une bataille pour obtenir leur part d'héritage, un héritage évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros.
Cinéma, Agnès, avec la sortie du 8e film de Xavier Dolan.
Dans ce Mathias et Maxime, le prodige québécois aborde la trentaine et revient déjà aux fondamentaux, c'est-à-dire chez lui au Québec avec son actrice de prédilection Anne Dorval et entouré de ses amis pour célébrer l'amour, l'amitié et la liberté. Eva Bétan.
C'est un film en trompe-l'œil. On pourrait croire à un film mineur. Xavier Dolan s'offre le plaisir d'un film de potes. On est bien dans des choses importantes. Mais Dolan choisit une forme de douceur, un mot qu'on ne lui accole pas d'ordinaire, pour attraper la jeunesse avant qu'elle ne s'enfuit, dire que c'est bon d'échapper à la solitude du surdoué et aborder la question de l'identité sexuelle avec un vœu de tolérance. Deux amis hétérosexuels qui, par un concours de circonstances un peu ridicules, se donnent un baiser qui va provoquer un sentiment amoureux qui les effraie alors que leur entourage l'accepte naturellement. Xavier Dolan.
C'est pas forcément la réalité. La réalité, c'est que dans ce film, il y aurait dû y avoir des propos homophobes. Mais moi, j'ai pas envie de ça dans mon film. Moi, j'ai envie de renverser ça, j'ai envie d'envoyer un message pour que celui qui s'identifie au personnage d'hétéro blanc se dise « Ah, moi aussi, je pourrais être ouvert d'esprit comme ça. Je pourrais aimer ce qui est différent. » Pour moi, c'est ça le cinéma. C'est faire croire aux gens, à travers une histoire, que quelque chose est possible.
Xavier Dolan retient les chevaux, et bien tant mieux. Rien ne vient masquer le don qu'il a pour capturer la vie. Il s'attribue le rôle de celui à qui l'existence ne donne pas la possibilité de l'insouciance. Avec ce film, il pourrait bien clore ce qu'il appelle son cycle de l'intime. On ajoutera en beauté et il n'a que 30 ans.
Mathias et Maxime, donc de Xavier Dolan, sort aujourd'hui sur les écrans.
Merci Agnès Soubiran.